RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie. L'heure suivante, magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le diplomate doit tirer parti de la technologie. Le ministre coordinateur des affaires politiques, justice et sécurité, M. Wiranto, veut une coopération qui met en avant la centralité de l'ASEAN. Selon le ministre de la Défense, l'Indonésie est prête à combattre les menaces irréelles. Le ministère indonésien des affaires étrangères a augmenté la protection des citoyens indonésiens aux États-Unis. L'Indonésie est conseillée de se concentrer sur 4 secteurs prioritaires. Jeremy nous présente maintenant le journal complet. Le développement rapide de la technologie numérique devient une partie intégrante de la vie quotidienne. Au cours des dernières décennies, cela a involontairement changé beaucoup de choses, y compris les interactions sociales de la communauté. La communauté s'est transformée en une société, un réseau qui est connecté les uns aux autres et peut obtenir des informations facilement. Par conséquent, selon le ministre indonésien des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, la diplomatie comme un effort de lutte pour l'intérêt national doit être capable de s'adapter à la technologie numérique afin de rester pertinent. L'utilisation de la technologie numérique est maintenant une partie importante de la stratégie diplomatique de nombreux pays, y compris l'Indonésie. Il a été déclaré par la ministre Retno Marsudi lors de l'ouverture d'un séminaire international sur la diplomatie numérique au ministère des Affaires étrangères de l'Indonésie à Jakarta jeudi.
Diplomats and diplomacy must adapt.
Le diplomate et la diplomatie doivent s'adapter, je le répète, doivent s'adapter à ces nouvelles normes, même apprendre à utiliser la technologie si vous voulez rester pertinent. La diplomatie numérique est devenue la partie intégrante de la stratégie diplomatique de l'Indonésie. Depuis que nous avons lancé notre site portail depuis des années, en tant que portail principal pour la diffusion de l'information du ministère et atteindre le public, ainsi que le hub pour intégrer 132 représentants indonésiens à travers le monde. Selon Mme Retno Marsudi, l'utilisation du site officiel à des fins diplomatiques au ministère indonésien des Affaires étrangères n'est pas également suffisante pour faire face au développement rapide de la technologie numérique. Par conséquent, le ministère des Affaires étrangères participe également aux médias sociaux dans le cadre de la stratégie diplomatique de l'Indonésie. Le ministère des Affaires étrangères de l'Indonésie est actuellement l'un des ministères qui ont intensivement promu ses diverses activités ainsi que la politique étrangère de l'Indonésie dans divers médias sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram et YouTube, en plus de sites officiels et des médias sociaux. Selon Mme Ratna Marsudi, l'utilisation d'applications pour soutenir les performances des diplomates indonésiens tels que Safe Travel, qui est utile pour protéger les citoyens indonésiens à l'étranger, et Smart Embassy, ou l'ambassade basée sur les technologies de l'information. L'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ou ASEAN, est une organisation régionale qui joue un rôle important pour les pays d'Asie du Sud-Est, y compris l'Indonésie. L'Indonésie, en tant que plus grand pays d'Asie du Sud-Est, est l'une des parties qui a initié la création de l'ASEAN, continuera de s'efforcer de maintenir la centralité de cette organisation régionale. Par conséquent, le ministre coordinateur des Affaires politiques, Justice et Sécurité, M. Wiranto, continuera à développer diverses formes de coopération qui met en avant la centralité de l'ASEAN pour faire face aux défis et aux menaces qui sont plus complexes. C'est ce qu'a déclaré M. Wiranto dans son discours lors de l'ouverture du Séminaire international de sciences de la défense d'Indonésie, ou IIDSS 2018, à Jakarta, mercredi.
Kerana kerjasama yang mengedepankan sentralitas ASEAN yang sudah kita bangun perlu terus kita kembangkan.
Le cadre de coopération qui donne la priorité à la centralité de l'ASEAN que nous avons établi doit continuer à développer pour institutionnaliser diverses formes et substances de la coopération. D'autres coopérations sous-régionales selon des besoins réels et urgents tels que Our Eyes, Indo-Mapil, Trilatéral, Joint Petrol et les autres sont l'initiative que nous devons soutenir et développer ensemble. À cette occasion, je voudrais inviter tous à renforcer notre engagement et notre esprit. Protéger mutuellement, se soutenir mutuellement par une coopération efficace, productive et bénéfique pour toutes les parties. Wiranto a dit que l'exemple d'une forme de menace complexe pour la région de l'Asie du Sud-Est, notamment l'État membre de l'ASEAN, était la question des réfugiés Rohingyas qui subissent des violences dans l'État de Rakhine au Myanmar. Selon lui, si le problème n'est pas résolu complètement, il pourrait être la source d'émergence d'autres problèmes tels que la traite des êtres humains et la drogue. En plus de la question des réfugiés Rohingyas, les tensions dans la péninsule coréenne qui ne sont pas encore totalement claires sont également une forme de menace pour la région de l'Asie du Sud-Est. Pour faire face à la complexité de la menace, selon M. Wiranto, l'unité pour trouver une solution est très importante. Une forme réelle qui peut être faite peut-être à travers le partage d'informations, de connaissances, de technologies, de pratiques et d'opérations conjointes pour faire face aux menaces. Le ministre de la Défense de la République d'Indonésie, M. Riamizar Triakudu, a déclaré que les menaces qui doivent être faites face par divers pays du monde, y compris l'Indonésie, ont changé. À l'heure actuelle, les menaces ne sont plus une véritable guerre ouverte entre les pays. La menace à la souveraineté et l'intégrité de la nation n'est pas encore complètement claire d'où elle vient et quel est son but. Riamizat, dans son discours d'ouverture du séminaire international de sciences de défense de l'Indonésie, ou IIDSS 2018, tenu à Jakarta récemment, a déclaré qu'il était prêt à lutter contre la menace.
Dalam perspektif Indonesia ke depan, ancaman tidak lagi bersifat perang terbuka antar negara.
Dans la perspective de l'Indonésie à l'avenir, la menace n'est plus la guerre ouverte entre les pays, ou ce que j'appelle une menace qui n'a pas été réelle. Cette menace irréelle peut devenir une menace réelle si la souveraineté de l'Indonésie est perturbée, si l'intégrité est perturbée et la sécurité de la nation est perturbée. Nous sommes en guerre. Nous ne faisons la guerre que pour défendre. Selama Syuria Mirat Yakudu Lun de Menas Iriel est un mauvais mode de pensée. Ce mode de pensée fait finalement les gens ordinaires à commettre des genres de terreur qui souvent irraisonnables. Les actes terroristes qui ont lieu à Surabaya dans l'est de Java récemment sont les exemples d'actes de terreur déraisonnables. Par conséquent, pour lutter contre ces actions, l'Indonésie et plusieurs autres pays de l'ASEAN travaillent ensemble pour une initiative appelée Our Eyes. Cette coopération est menée sous la forme d'échanges d'informations stratégiques. Our Eyes est une opération conjointe de 6 pays, à savoir l'Indonésie, la Malaisie, le Brunei Darussalam, la Thaïlande, Singapour et les Philippines. Le but de cette coopération est de renforcer le système régional et la détection précoce. Cette plateforme de coopération a été inaugurée en janvier 2018 à Bali. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie s'est engagé à améliorer la protection des citoyens indonésiens aux États-Unis, notamment ceux qui sont impliqués dans des affaires d'immigration, en coopération avec Keller & Associates en tant que consultant juridique des représentants de la République d'Indonésie à l'Amérique. Antara a rapporté, le directeur de la protection des citoyens indonésiens et des entités légales du ministère indonésien des Affaires étrangères de l'Indonésie, M. Lalu Muhammad Iqbal à Jakarta, mercredi, a déclaré que les représentants d'Indonésie en Amérique ont utilisé des services de consultation juridique, mais le caractère est pro bono ou volontaire. Cependant, Harun Keller, qui a été nommé comme conseiller juridique interne de plusieurs représentants indonésiens aux États-Unis, a déclaré que sous la direction du président Donald Trump, il y avait un changement de paradigme dans les violations d'immigration qui se concentrait plus sur l'application de la loi aux immigrants illégaux ainsi que les immigrants officiels. Harun apprécie les efforts actuellement déployés par le gouvernement indonésien pour mieux protéger le peuple indonésien qui est impliqué à l'étranger. Le Comité économique et industriel national recommande 4 secteurs prioritaires comme point focal de l'industrialisation de l'Indonésie. Ces secteurs sont l'agro-affaires, le maritime, le tourisme et l'industrie créative. Selon le président du Comité national économique et industriel, M. Sutrisno Bahir, ces 4 secteurs ont le potentiel de stimuler la croissance économique plus rapidement s'il est bien développé et l'Indonésie deviendra l'un des plus grands pays industrialisés dans le monde. Sutrisno Bahir à Jakarta mercredi a affirmé que l'Indonésie devrait se concentrer sur le secteur industriel prioritaire basé sur les 2 critères, à savoir les ressources naturelles et les ressources humaines indonésiennes. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Quiz international de la Voix de l'Indonésie 2018. Vous rêvez de visiter ce beau pays? Réalisez votre rêve en participant au quiz international de la Voix de l'Indonésie de l'année 2018. Si vous avez de la chance, la Voix de l'Indonésie vous invite de passer des vacances et profiter de la beauté de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez les bâtiments historiques de Bandung que vous connaissez. 2. Par quels moyens écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? En streaming ou en ondes courtes? Pourquoi? 3. Quel est votre programme préféré de VOI? Envoyez vos réponses avec des données personnelles, votre numéro et la date d'expiration de votre passeport à notre email foiquiz2018@voinews.id. Je répète, foiquiz2018@voinews.id. Avant le 31 juillet 2018, de 24 heures temps universel.
Les commentaires. Le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie, sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Réunion des dirigeants de l'OTAN ». Mercredi et jeudi 11 et 12 juillet 2018, les dirigeants de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, ou l'OTAN, ont réuni à Bruxelles en Belgique. L'ordre du jour de cette réunion a discuté de la situation sécuritaire autour de la région de l'OTAN. Mais au lieu de discuter de la question de la sécurité, le président américain Donald Trump conteste l'énorme fardeau de contribution américaine à l'Alliance et demande aux autres pays membres d'augmenter la contribution. Lors de la précédente réunion de l'OTAN, un appel a été lancé aux pays membres pour qu'ils augmentent leur contribution à 2%. Trump a déclaré que le fardeau des contribuables américains était trop grand pour l'OTAN. Actuellement, les États-Unis représentent jusqu'à 70% du budget de l'OTAN. Et dans le forum, Donald Trump s'est opposé si les États membres ont monté seulement à 2% et ont voulu monter à 4%. Trump menace qu'il y ait de grandes conséquences si sa demande n'est pas respectée. Cela peut dire sortir de l'OTAN. Bien que Trump ne dit pas oui, mais toujours en attente d'autres développements. À la fin de la réunion, Trump a également signé une déclaration commune sur laquelle les États membres augmenteraient leur contribution à l'OTAN, ainsi que des critiques sur l'occupation russe de la péninsule de Crimée et une tentative de meurtre avec empoisonnement en Angleterre. En plus de faire des histoires sur la question de contribution lors de la réunion de l'OTAN, Donald Trump a également fait une remarque critique à la chancelière allemande Angela Merkel à travers le Twitter. Trump a déclaré que l'Allemagne a été prise en otage par la Russie en raison de l'activité gazière et gazoduc germano-russe directement. Merkel a répondu par une conférence de presse avant une rencontre en tête-à-tête avec Donald Trump. La chancelière allemande a déclaré que l'Allemagne faisait des affaires avec la Russie de manière indépendante. Bizarrement, quand ils se sont rencontrés directement, Trump a agi comme s'il n'y avait pas de problème entre les deux. Malgré sa critique vers l'Allemagne qui est proche avec la Russie dans le secteur du gaz, Trump n'a fait aucune déclaration anti-russe et a simplement appelé Poutine comme concurrent. Trump devrait même rencontrer le président russe Vladimir Poutine en Finlande le 16 juillet après sa visite en Grande-Bretagne. Certaines des choses qui sont à l'ordre du jour de la deuxième réunion sur la situation mondiale actuelle et les chances de développement des relations bilatérales. On espère que les réunions des deux dirigeants pourraient mener à la résolution des conflits dans des régions où les deux parties se sont face, comme en Ukraine et en Syrie. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 13 juillet. Le 13 juillet 1930, la Coupe du monde de FIFA était lancée pour la première fois. La compétition mondiale de football organisée par la Fédération internationale de football, FIFA, ou la Fédération internationale de football association, s'est tenue le 13 juillet 1930. L'Uruguay est le premier pays à accueillir le championnat du monde. La compétition s'est déroulée du 13 au 30 juillet 1930 et a réuni 13 équipes nationales composées de 7 pays d'Amérique du Sud, 4 pays européens et 2 pays d'Amérique du Nord. Tous les matchs de cette première Coupe du Monde ont été joués dans la capitale uruguayenne, Montevideo. La majorité du match a eu lieu à l'Estadio Centenario qui a été délibérément construit pour accueillir le tournoi de la Coupe du Monde. Le premier tournoi de football de la FIFA au monde a été remporté par l'Uruguay. Le 13 juillet 1949, le gouvernement d'urgence de la République d'Indonésie prend officiellement fin. Le gouvernement d'urgence de la République d'Indonésie est l'organisateur de la République d'Indonésie pour la période du 22 décembre 1948 au 13 juillet 1949, dirigé par Shafruddin Prawiranegara. Il est également appelé le cabinet d'urgence. Sukarno et Hatta furent capturés par les Hollandais le 19 décembre 1948 et exilés. Juste avant d'être arrêtés, ils ont tenu une réunion et ont donné mandat à Shafruddin Prawiranegara pour former une administration provisoire. Le 6 juillet, Sukarno et Hatta sont revenus d'exil à Yogyakarta, la capitale temporaire de la République d'Indonésie. Shafruddin Prawiranegara, qui était président du gouvernement d'urgence de la République d'Indonésie, a réaffecté son mandat à Sukarno et a officiellement mis fin à l'existence du gouvernement d'urgence de la République d'Indonésie le 13 juillet 1949. Le 13 juillet 2000, la signature d'accords commerciaux bilatéraux entre le Vietnam et les États-Unis. Le Vietnam a une longue histoire de guerre avec les États-Unis. Après la guerre, la normalisation des relations entre les deux pays a été faite 2 ans après le départ des États-Unis du Vietnam. Le 13 juillet 2000, le Vietnam et les États-Unis ont signé l'accord commercial bilatéral qui a été confirmé par la suite le 10 décembre 2001. Cela a été marqué par l'échange formel d'accord entre les deux parties. Grâce à l'accord commercial, les exportations du Vietnam vers les États-Unis ont fortement augmenté. Les États-Unis sont devenus le plus grand marché pour les exportations vietnamiennes en seulement 2 ans après la mise en œuvre de l'accord commercial bilatéral. Chers amis, c'est l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici donc mon Indonésie ayant pour le titre l'Indonésie améliorera la communication avec les États-Unis. Le ministre de l'Industrie, Erlangga Hartarto, a déclaré que l'Indonésie améliorerait les communications avec le gouvernement des États-Unis liées au plan de réexamen du droit de douane dans le système de préférence généralisée GSP, qui fait le déficit commercial de ce pays avec l'Indonésie. Le ministre Erlangga Hartarto, après la réunion limitée au palais présidentiel de Bogor, Jawa West, a déclaré lundi que la communication continuerait à fonctionner avec le gouvernement américain. Le gouvernement fera la socialisation des produits qui sont toujours dans le champ d'application du GSP. Il a confirmé, en fait, pour les États-Unis, l'Indonésie place au 17e rang est aussi en termes d'importation et d'exportation, bien sûr, cela ne constitue pas une menace majeure pour les États-Unis. Par conséquent, le gouvernement essaie toujours de communiquer. Par ailleurs, le ministre du Commerce, Enggarti Hastolukita, a annoncé que sa partie se rendrait prochainement aux États-Unis pour rencontrer le département américain du commerce ou le représentant américain au commerce ou STR à la fin de juillet pour négocier avec STR afin que l'Indonésie obtienne toujours les facilités du système de préférence généralisée GSP. Le GSP est une politique commerciale américaine qui offre l'avantage de réduire les droits d'importation sur les produits d'exportation en provenance d'autres pays. L'objectif de la politique de GSP est d'aider les économies des pays en développement. Selon M. Erngarti Hartarto, le gouvernement fera l'approche pour que l'Indonésie obtienne d'autres facilités des États-Unis en plus du GSP. Parce que si le GSP est révoqué, l'Indonésie ne dispose pas d'autres facilités pouvant être utilisées pour obtenir des taux d'importation moins élevés. Comme l'impact, les exportations d'Indonésie vers les États-Unis sont potentiellement perturbées. Actuellement, il y avait 124 produits d'exportation indonésiens qui ont obtenu le GSP sur un total de 3547 produits autorisés. Si la facilité est révoquée, on s'attend à ce qu'elle provoque un important déficit de la balance commerciale pour l'Indonésie. Pendant ce temps, Thomas Lembong, chef du Conseil de coordination des investissements ou BKPM, a admis que le plan d'évaluation des droits de douane résumé dans la politique de GSP du gouvernement américain aura un impact sur l'investissement, principalement par le sentiment et la confiance. Ainsi, une guerre commerciale peut créer de l'incertitude. Le monde d'affaires et les investisseurs sont les plus sensibles à l'incertitude. Par conséquent, le gouvernement devrait préparer des incitatives supplémentaires pour réagir et atténuer l'impact sur le sentiment des investisseurs. Il a déclaré que l'évaluation du GSP aurait un impact sur 2 ou 3 facteurs. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Quiz international de la Voix de l'Indonésie 2018. Vous rêvez de visiter ce beau pays? Réalisez votre rêve en participant au quiz international de la Voix de l'Indonésie de l'année 2018. Si vous avez de la chance, la Voix de l'Indonésie vous invite de passer des vacances et profiter de la beauté de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez les bâtiments historiques de Bandung que vous connaissez. 2. Par quels moyens écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? En streaming ou en ondes courtes? Pourquoi? 3. Quel est votre programme préféré de VOI? Envoyez vos réponses avec des données personnelles, votre numéro et la date d'expiration de votre passeport à notre email foiquiz2018@voinews.id. Je répète, foiquiz2018@voinews.id. Avant le 31 juillet 2018, de 24 heures temps universel.
Shine.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel intitulé La Plage de Sirih. Lombok est l'une des destinations touristiques préférées des touristes qui visitent l'Indonésie. En général, les touristes qui voyagent à Lombok viennent profiter de la beauté des plages. L'une des belles plages est la plage de Sirih, située à nord de Lombok. Elle se trouve à proximité du centre-ville de Mataram, la capitale de la province de Nusa Tenggara Ouest, environ 35 km. Cette plage a une vaste étendue de sable, l'eau claire avec des récifs coralliens, faisant beaucoup de touristes locaux et étrangers font la plage de Sirih comme une de leurs destinations touristiques lors de la visite de Lombok. Après être arrivé à la plage de Sirih, vous verrez la beauté naturelle de cette plage. Le littoral est long, courbé, aussi loin que 3,8 km. Les sables ne sont pas trop blancs, mais elle a une texture douce. Autour de la plage, il y a une rangée de palmiers qui sont soigneusement rangés avec de l'herbe verte. Vous pouvez vous asseoir et vous détendre à l'ombre de cocotiers, tout en profitant de la beauté de cette plage. Si le temps est ensoleillé, vous pouvez voir la beauté du mont Rinjani à distance et vous pouvez passer du temps à jouer au volleyball et au football près de la plage. La plage de Sirih possède les eaux de mer claires et calmes, donc c'est très sûr et amusant de nager sur cette plage. Pour ceux qui aiment la plongée en apnée, cette plage est bonne pour canaliser votre passe-temps. La beauté sous-marine est encore maintenue. Si vous aimez la pêche, vous pouvez également louer un bateau pour aller au meilleur endroit de pêche sur cette plage. Vous pouvez également explorer la plage de Sirih en canot. Un certain nombre de voyageurs sur la plage fournissent des canots et de matière de plongée. Le meilleur moment pour visiter la plage de Sirih est pendant l'après-midi parce que vous pouvez profiter de la beauté du coucher de soleil sur cette plage. De la ville de Mataram, la plage de Sirih peut être atteinte environ 50 minutes jusqu'à 1 heure en utilisant le véhicule à moteur. Vous devriez louer un véhicule parce que les transports en commun qui passent par la plage de Sirih sont très rares. Si vous partez de Bali, la plage de Sirih est accessible en ferry depuis Padang Bay, Bali, jusqu'au port et continue en taxi ou en bus. Si vous voulez passer la nuit, vous pouvez rester à l'auberge face à la plage. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
warna-warni. L'Indonésie en couleur présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur. Comme l'une des destinations touristiques les plus fréquentées de l'année, Jogja offre de nombreuses options touristiques pour vous. De la montagne à la plage, il y a toujours un endroit que vous pouvez visiter pour ajouter à votre expérience de voyage. Les visites des touristes ont plus de l'impact sur l'augmentation des revenus locaux, ont également un impact sur les déchets qui sont empilés, surtout les déchets plastiques. Afin de réduire la quantité de déchets plastiques accumulés dans la ville, le Bureau de l'environnement de la ville de Yogyakarta préparera un mouvement de 1000 gobelets dans le cadre d'une série de commémorations du jour de l'environnement à la fin de juillet 2018 à Embung Langensari, Yogyakarta. Le directeur du Bureau de l'environnement de Yogyakarta, Suyana, a expliqué qu'en théorie, la quantité de déchets plastiques produits par la ville de Yogyakarta continuera d'augmenter. Ainsi, il faut beaucoup d'efforts pour minimiser les déchets plastiques. L'un d'entre eux est avec le mouvement de la communauté. Suyana a expliqué que le volume moyen de déchets produits par la ville de Yogyakarta et déposé à l'enfouissement Piyungan en juin a été enregistré à 257 tonnes par jour. 20% d'entre eux sont déchets plastiques et les déchets plastiques proviennent de bouteilles en plastique d'eau embouteillée. Pour cette raison, l'agent de l'environnement de la ville de Yogyakarta a un mouvement débordant de embouteilles embouteillées en plastique avec l'utilisation d'un gobelet ou d'une bouteille de boisson qui est apportée de la maison et peut être rechargée. Selon Suyana, il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas conscients du danger des déchets plastiques. Ils préfèrent d'acheter des boissons embouteillées parce que c'est plus pratique que devoir apporter une bouteille de la maison. En plus de réduire la consommation d'eau embouteillée, l'Agence pour l'environnement nettoie également trois grands fleuves, à savoir Chode, Gajah Wong et Winongo, des déchets plastiques traités par les nettoyeurs de rivières. Ils sont les officiers qui s'engagent à maintenir la propreté de la rivière. Ces agents ne rappellent pas seulement aux résidents de ne pas jeter d'ordures dans la rivière, ils nettoient aussi la rivière. C'était l'Indonésie en couleur.
Quiz international de la voix de l'Indonésie 2018. Vous rêvez de visiter ce beau pays? Réalisez votre rêve en participant au quiz international de la Voix de l'Indonésie de l'année 2018. Si vous avez de la chance, la Voix de l'Indonésie vous invite de passer des vacances et profiter de la beauté de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez les bâtiments historiques de Bandung que vous connaissez. 2. Par quel moyen écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? En streaming ou en ondes courtes? Pourquoi? 3. Quel est votre programme préféré de VOI? Envoyez vos réponses avec des données personnelles, votre numéro et la date d'expiration de votre passeport à notre email voiquiz2018@voinews.id. Je répète, voiquiz2018@voinews.id. Avant le 31 juillet 2018, de 24 heures temps universel.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir les amis de RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie. On se rencontre encore dans la rubrique Magazine Musical. Cette fois, nous allons vous donner les chansons régionales de la province de Kalimantan de l'Est. Commençons l'édition d'aujourd'hui en écoutant la chanson intitulée Lembus Wana par Nadira. Bonne écoute et restez avec nous à www.voinews.id.
Lembus
Voilà le Botswana chanté par Nadira. La chanson parle du symbole du royaume de Kutai Kartanegara, c'est le Botswana. Le Botswana est une créature qui a une tête de lion, est couronnée, a un tronc d'éléphant et a une oeil d'aigle. Bien qu'il ne soit qu'une créature mythique, les gens la croient toujours comme un symbole de la nature du noble roi. Chers amis, la suite, je vous présente la chanson de Effendi Dinda, dont le titre est « Burung Enggang ».
Menderita batin di dalam.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes sur 925 kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
C'était deux chansons indonésiennes de la voix de l'Indonésie. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.